Je vais me tourner maintenant vers les trois intervenantes pour savoir si elles souhaitent réagir aux commentaires, critiques, observations, remarques formulées par les deux disputants. Si vous avez besoin d'un temps de réflexion, je peux déjà lancer le débat avec la salle et prendre un certain nombre de questions. C'est comme vous souhaitez, c'est très démocratique, la présidence.
Mais j'avais juste oui, deux petites remarques. Je trouvais ça intéressant ce qu'a dit Mme Claverie par rapport au point de vue plus général à prendre en compte. L'accusation de Museveni dans l'affaire Congo est aussi particulièrement intéressante. Je me demande jusqu'où ça pourra aller. Est-ce qu'il pourrait être mis en accusation véritablement, ou en tout cas ça démontre, ça confirme à mon sens le pragmatisme de la CPI qui, une fois, je ne voudrais pas qu'il y ait des malentendus, je ne trouve pas que c'est forcément problématique que la Cour soit très pragmatique et qu'elle se soit servie aussi dans un sens hein, de l'intérêt de Museveni. Je pense que dans certains cas il faut aussi être conséquentialiste. Même chose par rapport à Nuremberg, hein, justice des vainqueurs, etc. Mais au final, prendre en compte aussi les résultats. Mais en tout cas, le fait qu'il y ait ces implications effectivement plus générales dans toute la région, des Grands Lacs aussi, souligne effectivement l'importance de considérer la situation d'un point de vue plus global, d'en comprendre les ramifications plus profondes. Et j'essaie en fait de montrer que la lecture trop dépolitisée, qui est souvent encore celle de la CPI, cette interprétation souvent légaliste du droit empêche de faire ce type de travail, notamment, comme je disais, de comprendre le contexte d'émergence plus général, plus social de la LRA. Et aussi, évidemment, le point de vue collectif. Vous parlez de réseau, de communauté. Le problème, c'est que, et c'est souvent une critique qui est venue dans cette critique communautarienne hein, que j'évoquais, que la CPI serait fondamentalement incapable en fait, de fournir ce type de lecture plus générale, plus sociale en fait, puisqu'elle est fondée trop exclusivement sur un modèle de responsabilité individuelle et que du coup on présente souvent la justice reconstructive ou traditionnelle comme étant une alternative. Voilà, cette justice-là, ancrée dans la communauté, elle peut vraiment rendre compte de ce point de vue plus général. Donc effectivement c'est une critique importante de se demander aussi dans quelle mesure, c'est peut-être un terme de débat, hein, dans quelle mesure la CPI ou la justice pénale internationale en général peut rendre compte de ses responsabilités plus collectives, mais sans pour autant tomber dans cet autre discours qui m'a semblé, moi, problématique, discours de la nation malade, discours un peu thérapeutique, hein, de la guérison, du groupe, qui me semble problématique, et qui élude aussi les responsabilités individuelles qui, quand même, existent. Et juste une autre remarque par rapport à ce que disait Antoine, c'était pas vraiment mon sujet, c'était plus celui de Patricia, mais effectivement, cette distinction entre connaissance et reconnaissance, et cette manière dont maintenant l'État est obligé de rendre des comptes, me semble intéressant. Une question que je me pose aussi, et encore une fois peut-être pour en discuter ensemble, jusqu'où en fait il peut aller dans cette reconnaissance de crimes passés, souvent récents, comme en Argentine, en France aussi, c'est pas si loin non plus, jusqu'où il peut aller sans ruiner sa légitimité, et dans quelle mesure peut-être les stratégies d'amnistie, de point final, etc. sont des modes de légitimation de l'État aussi.
Merci beaucoup, Cora. Patricia, pardon.
Merci. Merci beaucoup aux deux discutants pour leurs remarques. Mais je vais essayer de peut-être grouper certains points d'Elisabeth Claverie sur. Sur les techniques de dédégation. Peut-être avec les remarques d'Antoine Garapon sur la reconnaissance, puisque effectivement les procès pour la vérité vont subir plusieurs dénégations par les militaires, et même un général va les dénigrer au nom de l'armée publiquement, notamment au titre. Je ne sais pas si ça résonne trop. Notamment au titre que, en fait, ces procès-vérités qui éclorent dans plusieurs juridictions n'ont aucune harmonisation de procédure et du coup sont complètement arbitraires. Donc évidemment, il va y avoir des récupérations par les anciens responsables militaires argentins d'une certaine idée de l'état de droit, évidemment, de leur garantie à ne pas s'auto-incriminer. Donc il va y avoir aussi plusieurs décisions intéressantes, sur lesquelles je n'ai pas eu l'occasion de revenir, mais... sur la possibilité ou non d'utiliser évidemment ces preuves qui sont récoltées dans les procès-vérités dans les procès criminaux ordinaires qui maintenant ont été réouverts. Et donc évidemment, il y a il y a plusieurs décisions, enfin, je ne sais pas peut-être si ça intéresse vraiment les gens, mais il y a des décisions de cours, de niveau, par exemple de la cour de cassation pénale, qui vont décider que si jamais, enfin, qu'on ne peut pas utiliser des déclarations de militaires qui auraient été récupérées au cours d'un procès de vérité pour si elle viole son droit à ne pas s'auto-incriminer. Donc il va y avoir après évidemment une espèce de réajustement de toute une série d'acteurs du pouvoir judiciaire pour essayer que ces procès de vérité soient plus ou moins conformes, enfin, ou en tout cas que leur utilisation soit plus ou moins conforme aux garanties des droits de la défense. Mais donc effectivement, il y a eu beaucoup de dénégations de la part des personnes visées dans les procès de vérité. Et pourquoi je voulais aussi coupler ça avec la reconnaissance, c'est que évidemment, on pourrait se dire, oui, mais bon, maintenant que les lois d'amnistie ont été annulées en Argentine et que finalement le cours ordinaire de la justice pénale a pu reprendre, à quoi ça sert en fait ces procès-vérités ? Est-ce qu'ils ne sont pas voués à disparaître ? Est-ce que c'est une institution du passé qui est simplement liée aux contraintes historiques du passé ? Et d'ailleurs, c'est ce que pensent certains juges argentins, puisque de toute façon, les procès pour la vérité ont transféré tous leurs dossiers à la justice pénale depuis et qu'en 2007, enfin, oui, mais donc d'une part, ces procès vérité ont transféré leur dossier à la justice pénale, mais en fait, ce qu'on constate, c'est qu'ils sont pas en train de disparaître. Et je pense que c'est ça qui est lié à la dimension de reconnaissance aussi, évidemment, c'est que il y a une dimension de reconnaissance dans ces procès vérité qui est importante, parce que au contraire de ce que vous avez dit, il y a le rôle des victimes aussi, mais c'est souvent les victimes indirectes de familles disparues. Mais ce n'est pas l'unique raison, évidemment. Il y a un aspect de dimension de reconnaissance qui fait que finalement, ces procès-vérités continuent à être intégrés dans finalement le fonctionnement judiciaire, enfin, en marge de la justice, mais qu'on essaye de réintégrer leur travail dans la justice ordinaire. Mais il y a aussi toute une question de politique criminelle là derrière, parce que récolter des informations par des procès de vérité, ça permet d'accélérer les procès, ça permet d'avoir un fonctionnement procédural plus flexible, parce qu'on est moins contraint par des délais de procédure stricte qu'on aurait si on avait tout de suite commencé dans le cadre d'une procédure criminelle ordinaire, etc. Et donc voilà, ça c'était pour la reconnaissance. Alors aussi, par rapport à ce qu'Antoine Garapon disait du droit à la transparence, c'est intéressant parce que, en effet, ma thèse porte plus généralement sur vraiment le développement du droit à la vérité au niveau international et aussi ses déplacements de sens. Et justement, le droit à la transparence est un grand enjeu actuel, comme vous l'avez suggéré, du mouvement de certaines ONG de défense des droits de l'homme, qui essayent, donc je pense par exemple à l'Open Justice Society Initiative ou à Article 19 qui est basé à Londres, et qui essayent en fait aujourd'hui d'invoquer un droit à la vérité devant d'autres prétoires, par exemple la Cour européenne des droits de l'homme dans toutes les affaires de renditions ou de restitution extraordinaire, comme on les a traduits en français, c'est-à-dire sur toutes les affaires qui portaient sur les prisons secrètes de la CIA. Et l'idée derrière cette revendication par des acteurs complètement différents qui sont à un niveau, qui agissent à un niveau international complètement différent, dans des causes complètement différentes, l'idée est effectivement de bouger le droit actuel dans des directions qui sont quand même encore lié avec peut-être sa première reconnaissance judiciaire, puisque finalement, il y a une idée d'accès aux archives que l'État est obligé de garantir. Il y a une idée de... Mais, bon, évidemment, en Argentine, ça va plus loin, parce que dans les premières décisions des tribunaux, s'il n'y a plus d'archives, par exemple, en possession des militaires, alors l'État a même l'obligation de les reconstruire, ce qui est quand même encore une étape au-dessus. Mais... Mais donc, en effet, il y a des tentatives très intéressantes de divers acteurs au niveau international pour essayer, en fait, de faire reconnaître un droit d'accès aux archives des violations graves des droits de l'homme et d'en fait dire, enfin prendre des articles liés à la liberté d'expression en droits de l'homme et de dire qu'en fait ces articles reviennent à un droit à l'information et que donc le gouvernement aurait une obligation générale, une obligation positive de fournir des informations. Et je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci.
Merci beaucoup pour les commentaires. Moi, j'aimerais soulever peut-être quatre petits points. On m'entend, oui. Bon. Alors, tout d'abord, j'aimerais bien peut-être corriger quelque chose que j'ai dit pendant mon intervention, parce qu'apparemment, le message qui est passé, on me l'a fait remarquer. Merci aux membres du Centre de droit international, d'ailleurs. Ce que je voudrais rattraper en fait c'est que finalement en 2011 les juridictions hollandaises ont en fait réussi à dépasser les questions de l'immunité de l'ONU en faisant en fait une balance entre certains droits de l'homme et l'immunité de l'ONU et ont finalement procédé à une reconnaissance de la responsabilité hollandaise dans les omissions des actes de Srebrenica. Voilà, comme c'est enregistré, comme ça c'est corrigé. Voilà. Alors, par rapport aux commentaires qui ont été faits, par rapport à ce que disait Antoine Guérapon dans la différence entre l'intention et mobile, dans la notion de génocide, qui n'est peut-être pas très claire au niveau du droit pénal international. C'est vrai qu'on le remarque assez fort, notamment dans l'affaire Krstić, où justement pour essayer d'établir l'intention, le TPY procède déjà d'emblée à une certaine qualification des faits, c'est-à-dire qu'en établissant quel était le groupe protégé qui était celui des musulmans de Bosnie, et en se rendant compte que finalement le groupe qui était visé était les hommes en âge de porter des armes qui étaient des musulmans de Bosnie de Srebrenica, il a dû quand même interpréter les faits pour bien dire que c'était bien que le groupe qui a finalement été visé faisait bien partie du groupe protégé des musulmans de Bosnie. Et c'est vrai que c'est peut-être pas très clair parce que le tribunal au départ concède que le projet de départ n'était peut-être pas forcément celui d'éliminer, justement de tuer les hommes de Srebrenica. Par rapport encore à l'expression que vous avez utilisée d'un droit au fait, c'est vrai que peut-être indirectement, mais un tel droit aurait peut-être été reconnu dans ce qu'on appelle la Chambre des droits de l'homme. C'est une chambre spéciale qui a été créée par les accords de paix de Dayton et qui en fait s'occupe des violations des droits de l'homme non pas pendant le conflit mais suite au conflit, et donc là les associations des familles ont porté une affaire devant cette chambre et en fait obtenu une décision dans laquelle la Republika Srpska devait procéder à des enquêtes et relever le sort des victimes sur la base d'un droit d'être informé sur la localisation des personnes disparues. Donc c'est en quelque part une reconnaissance d'un certain droit au fait pour peut-être reprendre l'expression de Patricia, d'un droit à la vérité peut-être. Et alors un dernier point qui est plus une remarque générale par rapport peut-être à l'intervention de Cora et au commentaire qui a été fait par Elisabeth Clavery. C'est vrai que déférer une situation à la CPI, oui, ça un État peut le faire, effectivement, comme vous l'avez dit. Maintenant, ce qu'il faut peut-être pas perdre de vue, c'est que au départ, lorsqu'on a prévu la possibilité dans le statut de Rome pour un État de déférer une situation à la Cour, on n'avait pas vraiment envisagé ce qu'on appelle maintenant les auto-renvois. Donc, Au départ, on pensait que c'était les autres États qui allaient déférer des situations concernant la situation enfin, dans un autre État et non pas la sienne. Et donc forcément, quand on a des conflits d'une ampleur comme celui en Ouganda ou autre, et qu'on a un changement de gouvernement par la suite, bien évidemment que cette technique est mobilisée comme un instrument politique contre l'ancien régime. Et donc voilà, c'était une remarque générale.
Je vais maintenant ouvrir le débat avec l'audience. Si vous avez des questions, des commentaires, des remarques. Oui, Anne.
Bonjour. Alors moi, j'avais une question un petit peu générale à poser à propos de ces débats. C'est qu'en effet, à la fois les exposés et les commentaires qui ont été faits montrent à quel point il est assez fréquent qu'on s'adresse à des juristes pour établir une série de faits, que cette demande soit faite à titre principal ou à titre subsidiaire. Et moi, la question que j'avais envie de poser était la suivante. Est-ce que des juristes sont vraiment capables de répondre à cette demande vu leur formation? Parce que les juristes ont quand même un rapport très particulier aux faits. Pendant des années, ils ont appris toute une série de règles juridiques, de catégories juridiques et de définitions juridiques, ce qui les amène quand même souvent à appréhender les faits à travers ce prisme juridique, donc à l'aide de ces catégories et de ces définitions. Et pour prendre un peu appui sur cet article qui avait été écrit par Jean Salmon sur le syllogisme judiciaire, donc ce raisonnement qui est souvent utilisé par les juristes, où d'abord on établit les faits, et puis on établit la règle de droit, et puis on conjugue les deux, et de manière tout à fait naturelle, on parvient à une conclusion, il avait montré à quel point toutes ces étapes étaient quand même des étapes très construites, et que même quand on établit les faits, on établit les faits parce qu'on sait qu'à un moment donné, on va devoir faire correspondre les faits à certaines règles de droit. Et je crois que ce qui a été mentionné par rapport à l'affaire Srebrenica est un exemple de ça. Donc ma question est un petit peu la suivante. Vous faites parfois référence à la vérité factuelle qu'on demande aux juges, mais est-ce que les juges ne sont pas finalement les derniers auxquels on devrait demander d'établir une vérité factuelle vu leur formation? Merci.
Oui, non, mais c'est ce que je voulais dire. Il ne faut pas abuser de cet argument, si vous voulez. Quand on établit des faits pour des procès, alors je parle de faits précis, c'est moins le syllogisme qui est engagé que la capacité d'avoir des règles procédurales très strictes, très précises, et qui portent essentiellement sur l'application des faits. Alors, il y a les différences qu'on a vues ce matin avec Robert Jacob sur l'enquête et sur l'audience de common law, mais le fait est que la justice reste quand même une bonne enceinte pour établir des faits factuels, si vous voulez, hein. C'est-à-dire que établir voilà des choses comme les causes de la mort, tout ce que donne aujourd'hui la médecine légale, qui est quand même qui sont des choses extraordinaires, quoi. C'est-à-dire qu'il faut voir, vous avez mentionné les fausses secondaires, les fausses tertiaires, tout ce que peut révéler la médecine légale et le soin, et encore plus dans la procédure de common law où on a tout le temps qu'on veut. Hein, c'est-à-dire que vous pouvez demander un mois d'audience pour établir un meurtre. Et ben, vous avez un mois d'audience et on va dans tous les détails. Il y a très peu d'autres enceintes qui peuvent offrir une telle possibilité. Et certainement pas les historiens. J'entends, vous voyez, sont en temps réel. Alors ensuite, il y a une autre dimension que vous retrouverez dans le livre de Kirchheimer, Otto Kirchheimer, sur le political justice, où il dit, il remarque qu'en réalité, les procès restent quand même la manière une des meilleures manières d'inscrire dans l'histoire, d'inscrire dans la mémoire. C'est-à-dire qu'il y a des faits qui restent, qui sont inscrits dans la mémoire plus par le procès qu'ils ont suscité que par la réalité même. Et donc, c'est alors après, il y a bien sûr beaucoup de controverses et les juges sont sûrs de se tromper dans l'interprétation qu'ils peuvent donner. Il y aura des faits nouveaux qui vont réinterpréter ce qu'on a jugé à Nuremberg et on peut découvrir chaque jour toutes les âneries et toutes les inexactitudes historiques de Nuremberg. Il n'empêche que le jugement de Nuremberg a constitué un recueil de données absolument monumental qui a servi, entre parenthèses, à écrire une grande partie de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Si vous prenez un livre comme le livre de Christopher Boeing sur la 101e Les Hommes Ordinaires, c'est un dossier judiciaire. C'est un dossier judiciaire. Et le contexte de ce que vont dire, de ce que va dire quelqu'un lorsqu'il est entendu par un juge d'instruction, encore une fois, c'est les Hommes Ordinaires de cet exemple-là. Bien sûr que c'est en partie faussé par le fait qu'il dit ça dans un interrogatoire de police. Mais en même temps, il va y avoir un recueil de données de toute nature, un croisement de données médico-légales, de témoignages, de constatations, de prélèvements, et qui fait que ça donne effectivement un ensemble. Ce n'est pas les juges qui écrivent les faits, si vous voulez, c'est le processus.
Je voulais dire exactement cette phrase, c'est que ce n'est pas les juges. Enfin, dans la justice pénale internationale, c'est un très très long processus avec de très multiples acteurs. Et quand vous assistez à une réunion de crédibilité sur des témoins, j'essaye de regarder tous les processus cognitifs des juges qui sont en proie à ces réunions de crédibilité, c'est-à-dire qui regardent l'ensemble des témoignages et qui les confrontent, et le type de travail fait avec les témoignages, avec les dossiers admis à l'audience. Pas les Barthes-Bolmeschen, mais les documents admis à l'audience de façon contradictoire. Et les difficultés de les faire admettre, le rôle des intercepts téléphoniques, comment c'est travaillé et préparé à la fin du processus pour le juge, le travail au niveau de l'enquête du procureur, mais aussi dans la cause de la défense, le travail de la médecine légale, de la balistique, là en ce moment dans Karadzic. Chaque bombe envoyée sur chaque... vous avez un nombre de preuves documentaires allant depuis un nombre d'acteurs absolument extraordinaires à l'époque, les donneurs d'ordre, celui qui mesure les lisses, la façon dont il s'est planté, les photos de l'époque, qui sont contre-machinées, truquées. Bon, factuellement, moi, je me suis servi... j'ai fait une histoire du massacre de Visegrad, de toute la vallée de la Drina, de Srebrenica à Visegrad, et je me suis servi de ces sources, je vous le dis carrément, et je me suis servi de ces sources, et je suis bien certaine que, on verra dans 10 ans, mais que pour le moment, je n'en trouverai pas de meilleur, alors que j'ai fait des années d'enquête dans ces régions. Or, ces sources-là, j'y serais encore s'il n'y avait pas eu, parce que les façons de corroborer donnent malgré tout... Mais ce n'est pas le juge qui le fait. Le juge le fait en toute fin du processus, en justice pénale internationale. C'est pas comme le droit continental, il n'y a pas de juge d'instruction. C'est au long des audiences que les preuves sont admises ou pas admises par le juge, qui est en position de simple arbitre. Et quand il fait un déplacement judiciaire, il ne peut même pas parler parce que ce serait considéré par la common law comme impossible, il ne peut pas parler aux personnes, etc. C'est très très tenu par l'unité de détention, l'unité des témoins et des victimes, enfin, etc., etc. Donc vraiment le travail de corroboration est assez du point de vue positiviste très très très, très important, et le juge est en fin de course.
Julie Allard, et puis je vois qu'il y a encore une question. Je vais prendre peut-être, si vous êtes d'accord, plusieurs questions, et comme ça, les participants peuvent répondre. Madame, et puis vous, s'il vous plaît. Et je pense que c'est bon. 3 questions.
Oui, moi, c'est pas vraiment une question, c'était juste pour rebondir. C'est plus une remarque ou pour lancer encore davantage le débat sur ce qui fait finalement l'objet du colloque, pour rebondir sur la question d'Anne et la réponse qui lui a été apportée, parce que j'entends tout à fait sa question, et en plus, évidemment, dans les différents exposés que j'ai entendus, soit ce matin, soit aujourd'hui, elle était présente à mon esprit, surtout quand j'entendais que finalement on demandait des faits bruts, l'établissement de faits, etc. Effectivement, on est tous plus ou moins convaincus que les faits bruts n'existent pas. Mais... ce que moi j'entends dans sa question, et c'est pour ça que je la lui renvoie, c'est que quand on demande les juristes sont-ils les plus à même d'établir des vérités factuelles, et qu'on dit non, ils ne le sont pas parce que les catégories juridiques par lesquelles ils sont habitués à appréhender la réalité déforment au fond cette réalité, il me semble que derrière on présuppose qu'il existerait une réalité néanmoins factuelle, et qu'elle échapperait aux juristes parce qu'ils sont déformés par les catégories juridiques, ce que, en fait, moi, je ne crois pas. Et que donc, je pense que l'enjeu, au fond, de ce colloque, c'est de révéler qu'au fond, il n'y a peut-être pas de réalité factuelle, brute, accessible, sinon à travers différents types de catégories, et que la justice, et en ce sens pas seulement les juges, mais la justice comme processus, est un lieu privilégié de structuration d'une vérité. Et que c'est pour ça, alors ça ne veut pas dire que c'est la seule vérité possible, ça veut dire que c'est une vérité qui peut prétendre à une certaine réalité ou à une certaine factualité en raison de ce qui caractérise la justice, ses procédures, ses témoignages, son organisation. Donc moi, il me semble que là, c'est au fond, c'est ça qui est l'enjeu du colloque, c'est comment au fond le juge, mais au fond pas le juge tout seul, mais le juge par sa présence et ce qui s'organise autour de lui, jusqu'à arriver jusqu'à lui, permet par la mise en place d'une certaine parole à la fois organisée et publique de faire exister des vérités qui peuvent prétendre à une grande factualité. Ça ne veut pas dire qu'il y a des faits et que ça colle aux faits bruts, comme si les faits bruts existaient.
La vérité en général, c'est la vérité des charges. C'est au procureur de prouver les charges. Donc ce n'est pas la vérité du conflit yougoslave, par exemple. C'est la vérité des charges.
Si je peux juste intervenir là-dessus. En même temps, le côté symbolique, c'est qu'il y a eu un génocide à Srebrenica. Donc, c'est au-delà des charges et du cas de Krstić, dont la plupart ne connaissent pas le nom. C'est ça l'enjeu. Et là, si je peux juste en profiter pour rebondir et tricher en parlant avant ceux qui avaient levé leurs doigts avant. L'activisme du juge pénal, il me semble justement plus être, en tout cas, dans les faits que dans le droit. Parce que dans les faits, finalement, en effet, le grand enjeu sur le plan juridique, c'est qu'est-ce que le critère de l'intention dans le génocide. Alors là, le tribunal ne le remet pas du tout en question. Il dit d'ailleurs bien que le nettoyage ethnique, ce n'est pas un génocide, parce que justement, le but, c'est de gagner des territoires, en gros, et que ce n'est pas de détruire le groupe comme tel. Et que si on décrit le groupe, on détruit le groupe, pardon, ou une partie du groupe, c'est pour atteindre le véritable objectif qui ne serait pas la destruction du groupe. Alors ça, je dirais, c'est assez orthodoxe par rapport... Alors après, évidemment, à Srebrenica, l'ennui, c'est que, entre guillemets, si on voulait en tout cas qualifier de génocide, c'est qu'il y a cette séparation femmes-enfants, etc., qui fait qu'au-delà du nombre qui n'est pas simplement, c'est très difficile de démontrer, alors avec toutes les enquêtes qu'il y a eu, etc., de prouver l'intention de Mladic ce jour-là de perpétrer un génocide. Moi, quand je lis l'arrêt, je ne vois pas de preuve, c'est-à-dire que C'est un peu la théorie du génocide improvisé, parce que comme on n'a pas pu démontrer qu'il y avait une politique c'est comme ça que je l'ai lu en tout cas, mais et le tribunal est obligé alors de dire oui, enfin même si l'intention n'existait pas avant, en tout cas ce jour-là il y a eu une intention. Bon là on pourrait dire qu'il est créatif, mais vous trouvez pas, donc finalement c'est pas tellement là l'activisme. Là où il y aurait eu activisme, c'est peut-être si par exemple dans le procès Cambodge, si on dit il y a eu un génocide au Cambodge, alors là il y a de l'activisme. Parce qu'effectivement, l'intention s'étendrait à d'autres types d'objectifs que la destruction du groupe ethnique ou religieux, etc. Mais s'étendrait à des groupes d'opposants, y compris d'ailleurs au sein de son propre parti, enfin peu importe. Donc là, il y aurait un activisme judiciaire, puisque la définition même du génocide serait complètement dénaturée par rapport, en tout cas, à la définition d'origine. Mais dans l'affaire Krstić, à mon avis, ce n'est pas ça. L'activisme, il est ou il n'est pas, mais en tout cas, le problème, disons, c'est plutôt vraiment justement l'établissement d'effets bruts, entre guillemets, étant donné que la catégorie juridique elle-même n'est pas remise en cause, et en particulier ce problème crucial, au-delà de tous les autres, parce que bon, qu'il y ait eu des massacres, ça, qu'il y ait eu des crimes, ce n'était pas tellement ça la question. Le problème, c'est vraiment, est-ce qu'il y a eu un génocide ? Et ça, sur ce plan-là, le tribunal est relativement classique sur le plan de la définition, ce qui fait d'ailleurs qu'ensuite, en effet, la Cour internationale de justice a repris, en gros, enfin, même tout à fait ce qu'il a dit sur le plan du droit, mais pas des faits.
Juste 2 secondes, désolée. Donc effectivement, c'est pour ça aussi, Olivier, que j'ai souligné mon petit point d'interrogation dans « tribunal activiste ». Lorsque le tribunal de l'affaire Krstić analysait le critère de l'intention et notamment la séparation entre les hommes et les femmes, à un moment, on retrouve un passage en disant que oui, mais en tout cas, même si ce n'était que les hommes, les Serbes de Bosnie savaient qu'en privant toute une société des hommes, cette société n'aurait pas pu survivre plus loin, etc. Et donc, c'est vrai qu'il y a une interprétation a priori des faits pour prouver l'intention dans une catégorie finalement juridique, quoi. Donc, je suis d'accord.
Donc la sacralisation du juge, où on parle d'un juge comme s'il était très abstrait, et ce que vous nous rappelez, c'est que le juge, il ne travaille pas en vase clos, d'une part. Et j'apprécie très fort que vous mettiez les autres acteurs dans le processus, parce que les assistants judiciaires, etc., sont vraiment très, très présents, très importants. Et les juges, dans la tradition de common law, les juges sont nommés, les juges sont identifiés, etc. Et je me demandais, certainement dans les juridictions internationales dans lesquelles vous travaillez, sur lesquelles vous travaillez, si l'hybridité des cultures juridiques fait émerger une autre façon de raconter, de trouver le récit qui serait peut-être positive, en n'ayant pas peut-être je pose encore une fois une question très, très candide, les travers de la common law qui sont aussi excessivement techniques, mais qui ont été élaborés notamment dans l'admission des preuves pour des raisons assez légitimes également. Et donc, une de mes craintes, c'est que finalement, on puisse laisser entrer un tas d'informations d'ONG, etc., sans vraiment les soumettre. On transforme le juge en juge de common law, mais sans lui donner nécessairement les outils traditionnels de la common law, qui fait qu'on puisse traiter de la recevabilité de cette preuve-là.
Oui, allez-y, commencez. Vous savez, au nom de l'impartialité, le règlement de la Cour et du TPI insiste pour que les trois juges soit de cultures juridiques différentes, de sexes différents, de nationalités différentes, de religions différentes. Et donc, en fait, à ma grande surprise, ce que j'ai découvert au TPI comme à la CPI, c'est que même si la tendance common law est forte, ça n'est pas joué, parce que je me rends compte au fur et à mesure des requêtes et du travail, en tout cas au niveau des chambres, que les éléments de droit continental entrent dans des tas d'étapes du procès et que c'est différent de chambre à chambre. C'est vraiment différent de chambre à chambre. Et la première génération des internationalistes, enfin, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les juges sont des juges qui ont une culture pénale, de droit interne, et que ils sont vieux, plus âgés, et ce sont leurs assistants juridiques qui s'occupent de tout, parce qu'eux sont formés, c'est la première génération, formée au droit pénal international. Ce sont des internationalistes, les juges étant des pénalistes. Et il y a là une espèce de... Mais, par ailleurs, chez les juges, il doit y avoir trois professions. Un pénaliste, un diplomate, un universitaire. Donc, il y a... Les gens ne sont pas de même sexe, pas de même culture juridique, pas de même profession exactement, etc. Et ça fait partie des techniques que j'évoquais un peu tout à l'heure, de constituer une impartialité pratique. Puisque des gens comme Milošević ou Šešelj diront « Oui, mais vous, évidemment, vous étiez alliés à l'Allemagne, vous détestez les Serbes. » Et pour mettre fin à tout ça, c'est la culture de l'écart qui est considérée comme garant de l'impartialité.
Il y a un élément manquant dans la procédure de common law, c'est ce que disait Robert Jacob, nous a dit ce matin, la common law c'est le jury et le jury présent ou sa présence, son nombre. Là, il n'y a pas de jury. Donc, ça pose un gros problème pour faire fonctionner le système de common law. Il n'y a pas de jury dans la... Donc, le procès de common law est très déséquilibré, nécessairement. Puis, en plus, je pense qu'il y a d'autres questions techniques. Moi, je voudrais revenir sur trois points au risque d'insister. D'abord, pour répondre à Julie, attention, l'effet brut n'existe pas. Je suis de formation juge, j'ai été juge des enfants pendant 12 ans et ça m'est arrivé malheureusement de juger un certain nombre de cas de meurtre d'enfants. Bon, alors l'effet brut n'existe pas, mais il y a un enfant qui est mort. Et il est mort, il a des coups. Bon, alors après on peut dire tout ce qu'on veut, mais et s'il y a une réalité, c'est celle de la mort. Et ça, ne l'évacuons pas trop vite, parce que sans ça, on réfléchit en chambre, sans mauvais jeu de mots, mais et dans le crime contre l'humanité, on est toujours renvoyé à cette réalité de la mort, ces tribunaux. Donc, premier point. Deuxième point, le procès, c'est une structure d'internarrativité, on pourrait dire en termes un peu pédants. C'est-à-dire que c'est une double internarrativité. C'est-à-dire que c'est ce qui permet de joindre des discours techniques absolument hétérogènes, chimiques, médicaux, expertos, etc., et d'un point de vue argumentatif. Donc c'est une machine extraêmement complexe, en réalité, un procès. Et le procès de common law, l'enquête, on peut encore comprendre, le procès de common law, c'est encore une machinerie encore infiniment plus complexe si on veut comprendre comment ça fonctionne d'un point de vue argumentatif, la capacité de poser des questions, etc., quel type de questions. Par exemple, de présélectionner des faits, ça n'existe pas en common law. On doit pouvoir amener dans l'audience tous les faits qu'on veut, par définition. Ce qui donne d'ailleurs ce côté infini. Et bon. Ensuite, ne réduisons pas la question de la vérité à celle des faits. Je repense toujours à ce qui est quand même une des matrices pour nous du procès dans notre tradition occidentale, qui est la trilogie d'Eschyle sur la trilogie de l'Orestie. C'est une des fables les plus profondes sur la justice, et les faits sont évacués d'emblée, parce qu'Oreste reconnaît avoir tué sa mère. Et toute la question, c'est, était-il légitime, avait-il raison, était-il justifié à tuer Clytemnestre pour venger son père Agamemnon? C'est la troisième pièce, tourne que là-dessus, et c'est un récit sur la justice, donc... Il ne faut pas trop somnubiler sur la question des faits. La justice, il y a la question des faits et la question de la justification qui est aussi centrale.
Merci de me passer la parole. J'avais une préoccupation pour les trois intervenants. Un aspect pour lequel... j'ai un peu réfléchi, c'est la dimension politique et géostratégique dans l'action de la justice internationale. Parce que j'ai l'impression que la plupart du temps, le juge international se heurte, que ce soit même déjà dans les modes de saisine, que ce soit dans son action, à l'influence du politique. Alors, est-ce que cette influence du politique ne va pas plus loin jusqu'à occulter la vérité qui est recherchée? Le cas qui a été pris... Par exemple, le revirement dans le cas de l'Ouganda est assez important à relever, parce qu'à ma foi, il serait difficile de penser que ce revirement est lié à des arguments tels qu'évoqués de vouloir refaire la paix, l'amour entre les tribus, plus qu'une volonté politique de conduire la démarche qui était celle de rechercher la vérité et de pouvoir la changer. Merci.
Oui, je voulais juste revenir un peu sur votre question par rapport à la capacité du juge à interpréter la vérité, puis le débat qui a suivi. Juste, je trouve ça intéressant parce qu'en un sens, ça mène peut-être d'ailleurs à une discussion que vous aurez plutôt demain sur la mise hors jeu du juge face à ce que vous avez appelé une vérité populaire. Je trouve ça intéressant. Il y a deux choses juste que je voulais dire à ce propos. Je ne suis pas juriste de toute formation, mais en tant que philosophe, la question de la vérité est aussi importante. Déjà, la question de l'interprétation, comme vous l'avez dit, je pense que c'est comme ça, en tout cas, que je comprends la phrase de Julie, des lectures du conflit qui peuvent être parfois irréconciliables entre eux, notamment si on est le point de vue des victimes ou le point de vue des bourreaux. Un cas qui est intéressant à ce niveau-là pour comprendre cette...
cette importance de l'interprétation, c'est par exemple le cas d'Israël-Palestine. Dans quelle mesure est-ce qu'on pourra un jour fournir une interprétation objective ou une vérité factuelle sur ce qui s'est passé, qui mette d'accord les deux parties? Ça me paraît un peu compliqué. L'autre aspect que je trouve important, c'est la croyance. Pour revenir un petit peu à ce que je disais avant, le fossé qui peut exister entre information et croyance, c'est-à-dire que le fait de d'avoir devant soi une certaine vérité factuelle, qui a tué qui à telle heure, etc., ne veut pas forcément dire qu'on va le croire. Alors ça implique toute autre chose, qui est une analyse de la réception des jugements, une analyse de la réception des rapports, des commissions vérité, qui est très complexe, mais qui, je pense, est intéressante, et qui montre peut-être une autre vérité dont on n'a pas parlé, qui est une vérité plus subjective ou narrative, qui était un type de vérité que la commission sud-africaine a essayé de mettre en avant. Alors là, encore une fois, mettant clairement hors jeu le juge, hein, puisque c'est une commission vérité, mais en disant qu'en gros, face à ce type de crimes comme l'apartheid ou des crimes contre l'humanité, les seuls faits, la vérité objective, factuelle, ne suffit pas, et qu'en fait, il faut reconstituer la vérité à partir du point de vue individuel et singulier des récits de chaque victime. Donc je trouve que c'est intéressant, c'est quelque chose, j'espère que vous en parlerez demain. Ça lie, ça rejoint une idée plus philosophique cette fois-ci, selon laquelle en fait ces crimes dont on parle seraient incommensurables avec le langage juridique, que ce serait une forme de mal presque métaphysique, ce que disait Arendt ou Jaspers aussi, qu'on ne peut pas décrire de manière purement factuelle et neutre, et que du coup il faudrait évoluer plutôt vers une forme plus compassionnelle, plus narrative, plus subjective de la vérité que le juge pour le coup ne pourrait pas fournir. Donc c'est ça qui a fait naître aussi toute cette justice reconstructive qui est en vogue aujourd'hui.
Merci beaucoup pour cette question. En fait, j'ai un peu envie de vous la renvoyer. Est-ce qu'une vérité politique est-elle forcément mauvaise ? Enfin, certainement, évidemment que les enjeux politiques et géostratégiques dans les juridictions, comme notamment la Cour pénale internationale, sont bien présents, mais ça revient un petit peu à mon commentaire de tout à l'heure. La critique souvent adressée à la Cour pénale internationale est celle d'être une cour tout spécialement destinée à juger les États africains. C'est une critique qui revient souvent à un moment. Or, je pense qu'il faut se rendre compte aussi que oui, certainement, il y a les renvois des situations qui ont été faites par le Conseil de sécurité, mais comme je l'ai souligné tout à l'heure, les premiers cas qui ont été jugés à la CPI, enfin, ou qui sont en train de juger à la CPI, c'était des autres en renvoi. D'accord ? Enfin, c'est juste peut-être pour relancer le débat dans l'autre sens, mais effectivement, quand on se trouve face à une juridiction qui est créée par les États, ou carrément par un organe politique, comme dans le cadre du TPI, forcément. Mais quid ?
Oui, je vais essayer de revenir sur plusieurs remarques. Peut-être d'abord celle d'Antoine Garapon qui disait « Il faut que la justice se garde bien d'être le juge sur l'histoire » et associée à la remarque d'Anne, est-ce que finalement les juges sont bien armés pour établir une vérité factuelle ? Je pense que c'est des questions qui sont vraiment complètement au cœur des enjeux normatifs du développement du droit à la vérité au niveau international. Et puisqu'en fait, moi je vous ai parlé du cas argentin, mais évidemment, ce droit à la vérité, il est codifié maintenant dans la Convention contre les disparitions forcées de 2006. Et au niveau des débats sur sa codification, toutes ces questions sont laissées complètement en suspens. Donc par exemple, l'idée que des commissions de vérité et réconciliation puissent peut-être être mieux armées pour dire, établir cette vérité factuelle, ben, en tout cas, enfin, Sandrine Lefranc nous en parlera demain quand elle parlera des commissions de vérité et réconciliation, mais en tout cas, tous les débats aussi liés aux interventions de Cora Andrieux qui sont au cœur de la justice reconstructive et restauratrice, tous ces débats académiques tirent le concept de droit à la vérité dans plein de sens différents et contradictoires. On peut aussi se demander, ok, est-ce que les commissions de vérité et réconciliation sont aussi, qui sont donc des organes extrajudiciaires qui sont souvent mis en place pour une courte période et qui sont censés aussi produire une vérité historique qui soit pas trop controversée. Est-ce que eux aussi, évidemment, ils sont mieux armés? Est-ce que le fait que des conclusions, parce qu'en fait ces commissions de vérité parfois font des qualifications juridiques, par exemple sur est-ce qu'il y avait un conflit armé à telle époque entre tel groupe et tel groupe, est-ce qu'il y avait génocide. C'est aussi des qualifications juridiques que font ces commissions de vérité qui ne sont pas, enfin qui sont souvent peu composées de juristes. Et ces qualifications juridiques faites par des commissions de vérité sur quels ont été les faits ou l'histoire, sont parfois repris même dans, bah, comme finalement, comme preuve, hein, comme établissement des faits, dans des jugements de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, par exemple, pour évacuer le fait de devoir prouver qu'au Guatemala, il y a eu un conflit armé, interne ou international. Et donc, voilà, je pense qu'évidemment, vu l'ambivalence propre au concept de droit à la vérité, et les questions, enfin, son développement dans plein de directions contradictoires est vraiment inépuisable. Et alors que, comme je l'ai montré dans le cas argentin, au départ, c'est un outil pour réactiver la justice pénale. Mais finalement, évidemment, il va finir par fonder d'autres types d'instances de production de vérité qui sont non judiciaires. Et donc, oui, donc je voulais... par rapport à Antoine Garapon qui disait la réalité c'est celle de la mort, ben oui, aussi la réalité c'est aussi, en tout cas dans le cas argentin, c'est aussi la question de l'identité des responsables. Et donc à partir de ce moment-là, est-ce que les juges sont bien armés pour produire cette vérité? En tout cas, les organisations de défense des droits de l'homme et les familles disparues, quand l'armée leur propose d'arrêter les procès-vérités et qu'on fasse plutôt une table ronde, comme il y a eu au Chili, entre l'armée, le gouvernement et les familles disparues et les autres associations professionnelles des droits de l'homme, le but de cette table ronde étant éventuellement juste que l'armée livre de manière brute toutes les informations, ok, tous les registres de détention, mais à condition qu'il y ait une certaine confidentialité de la révélation d'informations et surtout qu'il ne soit pas puni et pas jugé, ben là, ceux qui sont à la base de sa revendication décident de refuser de continuer sur les procès-vérité et puis ensuite sur des procès pénaux. Et donc, en tout cas... la réalité d'établir l'identité des responsables, elle est d'office liée à la volonté de les faire juger. Et donc, d'où l'intérêt du juge pour eux, en tout cas, et surtout du juge pénal. Voilà.
Juste pour réagir par rapport à ce que Patricia vient de dire, pour démontrer qu'en fait pour démontrer que oui, les juges peut-être sont les meilleurs interlocuteurs, parce que finalement les familles qui demandaient la vérité quand on leur propose autre chose, elles n'en veulent pas. Peut-être que c'est parce que l'enjeu de tout ça n'est pas la vérité. Je veux dire, peut-être que la conclusion de l'histoire, c'est quand même celle-là. Ça, c'est aussi quelque chose qu'il faut pouvoir envisager. Bon. Ça ne veut pas dire que leur demande de vérité factuelle pour savoir ce qui était, je dis factuelle dans un sens neutre ici, pour savoir ce qui s'était passé, n'était pas légitime. Ça veut juste peut-être dire que la simple connaissance d'une vérité a forcément des conséquences au-delà de la vérité elle-même. C'est-à-dire quand on sait quelque chose, en général, ça déclenche une action derrière. Et ça, c'est peut-être la limite du concept de vérité tel qu'il est utilisé là.
Merci beaucoup. Une dernière peut-être intervention ?
Oui, juste toute dernière intervention. Donc en effet, ce que je trouve très très intéressant, c'est que bien sûr qu'on s'adresse au juge pour avoir une vérité, et ce sera peut-être sa vérité factuelle qui, il me semble, est quand même encore commandée par sa formation de juriste. Mais certainement, si on s'adresse au juge, c'est parce qu'on veut que ce soit un juge qui établisse la vérité. Et donc bien sûr que c'est une demande de reconnaissance d'un vecteur particulier qui explique qu'on va se souvenir des procès même 150 ans ou 500 ans après, et que donc c'est ce vecteur privilégié et symbolique qu'on mobilise et qu'on active.
Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Non. Une fois.
C'est vrai que la politique de poursuite des procureurs est le talon d'Achille de ces cours. Mais bien sûr, parce que c'est une partie d'abord qui n'est pas totalement publique et qui est d'un ordre extrajudiciaire, certains types d'ordre. Il faudrait mieux comprendre. C'est très très intéressant. Mais malgré tout, malgré cela, et Dieu sait que je suis d'accord avec. Il faudrait mettre en place des éléments pour critiquer la politique des poursuites. Mais les procès ensuite, il peut y avoir des acquittements. Et il y a des acquittements. Et on peut défaire ce qu'a fait le procureur.
Bien, merci beaucoup. Ce n'est pas la fin du colloque. Il y aura une deuxième et troisième session demain, mais on peut déjà dire que c'est un succès. Merci à tous. Troisième et quatrième, désolée, je suis fatiguée. C'est déjà un succès. Nous avons eu un très important débat et nous avons écouté des présentations passionnantes et très très riches. Merci à tous pour votre présence et participation. Nous reprenons nos travaux demain matin à 9h pour la troisième session.